Et bonjour à tous et bienvenue sur la première radio du lycée Charles Péguy, le meilleur lycée de la région centre. Cette émission de radio sera présentée par Jade Delobel. Bonjour Jade.
Bonjour Léo.
Et moi-même, Léo Delahaye.
Nous sommes deux élèves de terminale faisant l'option DGEMC, droit et grands enjeux du monde contemporain. Pour cette première émission, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité, également faire de belles découvertes cinématographiques et musicales, et même un quiz.
Et donc pour commencer, nous accueillons Madame Berbin. Bonjour Madame Berbin.
Bonjour à tous.
Sage-femme d'Orléans qui va nous parler de solutions lorsqu'une jeune fille veut avorter, avec un titre de discussion, « Je suis mineure et je veux avorter, qu'est-ce que je peux faire ?» Bonjour Marie-Agathe.
Bonjour. Nous sommes Marie-Agathe et Pauline, en terminale au lycée Charles Péguy. Nous allons aujourd'hui échanger avec une sage-femme au sujet de l'IVG et de la contraception. Bonjour Emmanuel Berbin, vous êtes sage-femme à l'hôpital de la Source à Orléans. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour Marie-Agathe, donc j'exerce le métier de sage-femme depuis une vingtaine d'années, dont 10 sur l'hôpital d'Orléans. Je réalise des consultations de suivi gynécologique, de contraception et d'interruption volontaire de grossesse depuis que la législation a donné ses compétences aux sages-femmes.
L'IVG correspond à interruption volontaire de grossesse et est plus communément appelée avortement. Cette intervention consiste à mettre fin à une grossesse non désirée. Le délai légal de l'IVG est de 12 semaines de grossesse. Avec la crise sanitaire, il a été temporairement allongé, mais il faut bien comprendre qu'il est très important de consulter au plus vite.
Une question pour vous, Emmanuel Berbin. Quelles sont les démarches à suivre pour une mineure qui souhaiterait avorter, avoir recours à une IVG ?
Alors, une jeune fille mineure qui se sait enceinte et qui envisage une IVG doit réaliser deux démarches au plus vite. Déjà, en parler à une personne majeure qui l'accompagnera et la soutiendra dans cette démarche. Donc, ça peut être les parents, un ou une amie, un personnel du lycée. Ou ouais. Dans un deuxième temps, il faut qu'elle prenne contact avec le centre d'IVG de l'hôpital ou le planning familial. Il est important de savoir que pour la mineure, l'IVG est gratuite et anonyme. Donc si vraiment elle ne veut pas que ses parents le sachent, cela est tout à fait possible, même si nous l'incitons à en parler à ses parents. Anonyme, cela veut dire qu'il n'y aura aucune trace sur les relevés de la sécurité sociale des parents. Et puis évidemment, le secret médical est tenu par l'équipe. Après, reste au choix de la jeune fille d'être accompagnée aussi par le partenaire. La loi prévoit un entretien psychosocial qui sera réalisé par l'équipe qui accueille la jeune fille, suivi d'une première consultation médicale qui permet d'organiser l'IVG médicamenteuse ou chirurgicale. Le processus ne débutera qu'après un délai de réflexion de 48 heures après le premier entretien psychosocial.
Donc, lors de la préparation de cette interview, nous avons été voir l'infirmière et le CPE du lycée et leur avons demandé comment accueillait-il et accompagnait-il une élève souhaitant avorter. Donc, si une élève va voir l'infirmière au sujet d'une grossesse non désirée, l'infirmière commence par évaluer le retard des règles, puis réalise un test de grossesse. Elle contacte ensuite le planning familial pour lancer une procédure d'IVG. Ensuite, elle accompagne l'élève tout au long de la démarche afin de lui apporter un réel soutien psychologique et conseillera ensuite à l'élève d'en parler à ses parents, mais dans tous les cas, l'élève est libre de leur en parler ou non. L'infirmière est par contre dans l'obligation d'en parler au chef d'établissement, car il est responsable des élèves lorsqu'ils sont dans l'établissement. Mais elle est soumise au secret médical. Elle ne doit donc dans aucun cas en parler aux parents ou aux professeurs, par exemple. Nous avons ensuite été voir le CPE pour lui demander ce qu'il ferait si l'infirmière était absente et qu'une élève venait le voir au sujet d'une IVG. Il doit donc prévenir l'assistante sociale en urgence et il appellera l'infirmière dans tous les cas pour la tenir au courant de cette situation. Il prévient ensuite le chef d'établissement, comme le ferait l'infirmière, comme je l'ai dit précédemment. Et en dernier recours, il contacterait le planning familial lui-même.
Très bien, nous allons maintenant aborder le sujet de la contraception. Dans quel cas faut-il prendre la contraception d'urgence, appelée aussi pilule du lendemain, et quelles sont les conditions, les modalités de la prise de cette pilule ?
Donc cette pilule est à prendre pour éviter une grossesse si la jeune fille a eu un rapport sexuel non protégé ou un oubli de pilule de plus de 24 heures. Cette pilule est à prendre le plus rapidement possible, c'est-à-dire entre 3 et 5 jours maximum. Elle est délivrée de façon gratuite et anonyme par votre infirmière scolaire, la pharmacie ou le planning familial. Il faut savoir qu'elle n'est pas efficace à 100%. Il existe une autre méthode plus efficace mais peu connue, c'est la pose d'un stérilet ou d'un petit système dans l'utérus. Ce geste doit être fait dans les 5 jours qui suivent le rapport.
Très bien. Une dernière question pour vous. Est-ce qu'une mineure a le droit de prendre une contraception ? Si oui, sous quelles conditions ?
Oui, tout à fait, elle a le droit. Comme pour l'IVG, cette démarche est gratuite et anonyme à partir de 15 ans. C'est le seul soin médical qui est aussi délivré sans autorisation parentale. Ou vous pouvez vous adresser au planning familial, en consultation de gynécologie à l'hôpital ou chez votre médecin ou une sage-femme en cabinet. Cette consultation ne nécessite pas d'examen gynécologique. Nous allons procéder à l'explication de toutes les méthodes de contraception, suivie d'un petit interrogatoire sur vos antécédents. Nous faisons aussi une information sur les infections sexuellement transmissibles. Mais le choix, en général, de la contraception revient à la jeune fille. Pour les jeunes filles de moins de 15 ans, cela est plus rare. Elles sont souvent accompagnées de leurs parents, sinon il faut qu'elles s'adressent au planning familial.
Très bien, merci beaucoup. Cette interview est terminée. On espère vous en avoir appris un peu plus sur ces sujets. On vous remercie aussi de nous avoir écoutés et merci Madame Verbin pour votre intervention.
Merci. Effectivement, un grand merci à Madame Verbin d'avoir pris de son temps pour venir parler de ce sujet.
On continue avec Amandine, Clara et Hélène qui vont nous présenter le métier peu connu mais néanmoins très intéressant d'huissier de justice. Les filles, on vous écoute. Huissier de justice, au plus près de votre porte.
Bonjour, moi c'est Clara. Je suis en compagnie d'Amandine et de Hélène. On va vous présenter le métier d'huissier de justice.
Alors d'abord, il faut savoir que le métier d'huissier de justice est assez mal vu. Il mériterait une plus grande reconnaissance de la part du public. Alors concrètement, c'est quoi un huissier de justice ?
Eh bien, pour te répondre, un huissier de justice propose des solutions et conseille ses clients. Ça leur évite de passer devant le tribunal pour, par exemple, ne pas avoir payé ses dettes. Parfois, il envoie des courriers juridiques, comme par exemple des convocations au tribunal. Il fait aussi des constats, comme par exemple un état des lieux, si un locataire a laissé un logement dans un état lamentable.
Et sinon, côté qualité et études, comment ça se passe ?
Il doit savoir écouter ses clients, analyser les différentes situations et surtout très bien connaître le droit. Et bien sûr, pour être huissier, il faut faire des études de droit et avoir un bac plus 5.
Par contre, c'est un métier qui n'a pas une très bonne réputation, il faut le dire.
Oui, c'est vrai que quand tu le vois débarquer chez toi à 8h, ça fait pas vraiment plaisir.
Oui, enfin, souvent ceux qui se plaignent, c'est ceux qui respectent pas les lois et qui ont donc affaire à lui.
Oui, mais il y a quand même d'autres avantages que l'on n'a pas encore cités.
Déjà, niveau rémunération, c'est pas mal. 8 000 € brut par mois, ça se refuse pas. On dit souvent que c'est un métier monotone, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de routine. C'est plutôt un métier vivant.
Donc on a essayé de défendre le métier d'huissier de justice. J'espère qu'on vous a convaincu et merci de nous avoir écoutés.
Eh ben merci de nous avoir fait découvrir cette profession. On espère que ça aura été tout aussi clair pour nos auditeurs que ça l'a été pour nous.
Et depuis quasiment un an, le monde subit la vague du Covid-19 avec des répercussions désastreuses. Les étudiants souffrent extrêmement. Accueillons Khadija et sa chronique sur la détresse des étudiants. La détresse des étudiants, la France régresse.
Depuis un an, la crise sanitaire a été plus ou moins bien vécue selon les personnes, ainsi que ses répercussions sur nos vies. Les étudiants du supérieur ont eux aussi payé les frais de cette crise, se retrouvant pour certains en pleine détresse psychologique, seuls dans des petites chambres universitaires. Suite à un isolement et à une coupure de tous liens sociaux, l'épuisement moral et physique, les difficultés financières, certains ne pouvant manger qu'un repas par jour, n'ayant pas de quoi payer leur loyer et livres scolaires. La dépression, le manque de perspectives d'avenir, l'angoisse, la douleur physique quotidienne, le décrochage scolaire, le sentiment d'abandon et le mal-être profond sont devenus leur quotidien depuis maintenant un an. Suite à quelques interviews, j'ai pu constater que les étudiants se sentaient sacrifiés. D'après eux, les seules choses qui ont poussé le gouvernement à s'intéresser au cas des étudiants étaient des lettres de détresse ainsi que des suicides. Combien de suicides supplémentaires faudra-t-il avant que les cris de détresse des étudiants soient entendus ?
Eh bien, si seulement notre radio est écoutée par le gouvernement. Un grand merci à Khadija pour cette chronique d'actualité d'une importance majeure.
Je vous propose de poursuivre sur cette même lancée et d'écouter cette fois Zoé qui va nous apporter quelques précisions supplémentaires.
Khadija vient de le développer dans sa chronique. Les étudiantes et étudiants sont de plus en plus en difficulté. Une cause, la crise sanitaire qui n'en finit pas. Nous vous proposons un petit tour d'horizon de ce qui est apparu dans la presse à ce sujet. Un article de L'Étudiant s'intéresse plus particulièrement au cas des étudiantes. 40% d'entre elles sont boursières, contre 34% des hommes. La crise les impacte plus, car elles ont à prendre en charge des dépenses que les hommes n'ont pas. Je veux parler des protections hygiéniques menstruelles. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a reconnu la situation particulière des filles. Comme solution, le gouvernement va augmenter les aides financières mises en place pour qu'elles puissent s'acheter des serviettes et des tampons. Les jeunes femmes qui le souhaitent peuvent aussi être accompagnées chez le gynécologue. Le principal problème des étudiants, c'est l'argent. Mais ils ont aussi des détresses psychologiques. Lola est étudiante en prépa à Paris, mais sa famille vit à Bordeaux. Elle témoigne sur France TV Info. Ce confinement se traduit par beaucoup d'anxiété et de stress que je n'avais pas avant. Bien sûr, les examens sont la principale source de stress, car les étudiants les préparent à la maison, sans aucune aide. Le choc du confinement joue aussi un rôle. Elle s'est retrouvée seule, du jour au lendemain, dans une ville où elle ne connaît personne. En plus, elle doit gérer ses études devant un ordinateur. Toute une orientation est remise en question. Lola explique que pour, je la cite, « calmer un peu tout ça », elle prend un Xanax à chaque repas. Au final, elle en ingère 3 par jour. Sur France Inter, un autre article parle des sacrifices que doivent faire certains étudiants pour subvenir à leurs besoins. Beaucoup ont déjà perdu leur petit boulot, qui se faisait majoritairement dans la restauration, et les entreprises, elles-mêmes en difficulté, n'embauchent pas ou peu, et encore moins des jeunes. Pour recevoir un peu d'argent, un étudiant nous dit qu'il a dû vendre son ordinateur. Résultat, il n'a plus rien pour étudier. Enfin, l'émission de télé Quotidien a proposé plusieurs reportages consacrés aux étudiants. On peut les voir manifester contre les partiels en présentiel ou exprimer leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement. La ministre, qui prend la parole, n'a pas de solution concrète à proposer, mais elle assure les avoir entendus. Deux étudiants qui sont invités sur le plateau déplorent le manque de considération à leur égard et ceux interviewés parlent beaucoup du manque de contact extérieur. En effet, la vie sociale leur manque et ça n'est pas la vie étudiante qu'ils s'imaginaient. Pour eux, le gouvernement les a oubliés. Heidi, 19 ans, a écrit une lettre au président de la République. Elle écrit que sa vie n'a plus aucun sens. Toute une génération se considère sacrifiée et tous mettent en avant le manque de perspective pour le futur.
Merci Zoé, c'était très intéressant, très émouvant aussi. Je suis ravie qu'on puisse aborder un tel sujet tous ensemble.
Tout à l'heure, nous avions parlé du métier de huissier de justice, maintenant d'un autre métier de droit, celui d'avocat. Écoutons donc avec plaisir la chronique élogieuse et remplie d'humour d'Aliénor. Bonjour Aliénor.
Bonjour à tous, je me présente, je suis Aliénor Combi en classe de terminale G7 et aujourd'hui je viens vous parler du métier d'avocat. Léo, trouver un chewing-gum collé sous ta semelle ne t'énerve-t-il pas ? Ou la petite goutte de café qui coule le long de ta tasse avant d'atterrir sur ta sous-tasse ? Jade, les grains de sable dans ta chaussure ou ce couple de lycéens amoureusement enlacés bloquant le couloir C qui mène à la C04 ? Cela ne t'énerve-t-il pas ? Tous ces petits trucs qui nous énervent, est-ce qu'on a le droit de s'en plaindre ? Franchement, si tous les malheurs du monde se résumaient à un chewing-gum, un grain de sable ou un couple amoureux, le monde irait finalement assez bien. Kevin a vendu du cannabis, il prend 5 ans de prison. Jean-Claude a battu sa femme, il prend 3 mois avec sursis. C'est juste ou c'est pas juste ? Charles-Henri, fils de PTG, intègre une école à 20 000 euros l'année. Aïssata, jeune mineur isolé, est obligé d'arrêter ses études et de faire des petits boulots. C'est juste ou c'est pas juste ? Le milliardaire Carlos Ghosn, arrêté pour abus de confiance et trafic financier, s'évade. Robert Dubois, condamné pour viol et meurtre alors qu'il était innocent, 40 ans de prison ferme. Jade, Léo, C'est juste ou c'est pas juste? Qui a inventé le métier d'avocat? C'est la civilisation grecque, c'est le monde antique, et le père de tous, Démosthène, est le premier à dire que la parole est une arme. Et après lui, ils seront nombreux, Cicéron, Solon et Ulpien, et tous les autres, jusqu'à Justinien, qui fonde l'ordre des avocats, à l'aube du 5e siècle après Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus beau métier que de se battre chaque jour contre l'injustice. L'avocat, du latin advocatus, c'est celui qui porte sa voix pour défendre. Il existe depuis l'Antiquité, et ils sont innombrables dans l'histoire de l'humanité. Celui qui m'inspire, c'est Victor Hugo. Avec la même fougue, je défendrai les droits de l'homme, les droits du prisonnier, le droit de l'enfant. Celle qui m'inspire, c'est Simone Veil ou encore Gisèle Halimi. J'aimerais, comme elle, persévérer dans mes combats auprès des femmes. Celle qui m'inspire, c'est Georges Bizot ou l'avocat de Nelson Mandela. Je défendrai les hommes de toute origine et de toute couleur de peau. Celui qui m'inspire, c'est aussi Robert Badinter. Je rêve d'être capable de renverser, comme lui, des millénaires qui avaient légitimé le travail des bourreaux. Le métier d'avocat n'est pas quelque chose que l'on fait par dépit. C'est un métier de passion qui demande une entière implication et une grande persévérance, où on ne compte pas ses heures. L'avocat n'est jamais un complice du crime, mais bien un défenseur de l'homme. Alors oui, j'entends déjà vos différentes remarques, mais Aliénor, tu peux pas faire ça, c'est de trop longues études, bien trop dur pour une jeune fille. Tu seras une pauvre avocate, commis d'office, contrainte de rendre visite à de sales dealers en garde à vue. Ou encore, tu vas prendre des risques dont tu ne peux mesurer l'ampleur. Tu risques d'être menacée, toi ou tes proches. Tu subiras des pressions politiques et médiatiques. Et enfin, lorsque tu perdras un procès, on dira de toi que tu as été une bien piètre avocate. Jade, Léo, mesdames et messieurs, pouvez-vous affirmer qu'un être humain seul est capable de retrouver son humanité bafouée? Sans un avocat, un être en proie à la justice des hommes est-il capable de se sauver lui-même? À tous ceux qui disent « à quoi bon ?», à tous ceux qui ne croient pas ou plus en la justice, je viens dire ici, sur cette radio, avec force, qu'il n'y a pas de combat perdu d'avance. Un avocat comme une avocate est un être de courage. L'avocate que je pourrais être est une femme de détermination, une femme de persévérance, une femme qu'aucune ingratitude ne ferme et qu'aucune indifférence ne lasse. Je vous remercie.
Eh bien, avec cette chronique, je pourrais presque arrêter mon travail de présentateur radio pour devenir un avocat. Un grand merci à Aliénor pour ce superbe discours.
Je vous propose désormais de passer à un sujet un peu plus léger, un peu plus rythmé aussi. Et je vais laisser la parole à Hugo pour nous parler d'un artiste incroyable, Nekfeu, au sommet de son art.
Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de Nekfeu. De son vrai nom, Ken Samara, c'est l'un des artistes les plus écoutés de France. Et grâce à l'influence qu'il a, il essaye de faire bouger les choses sur différents problèmes. Il y parvient en faisant passer des messages dans ses textes, sur sa vision du monde, sur ce qu'il pense. C'est tout d'abord un pacifiste. Il aimerait que toute guerre s'arrête. Mais comme il le dit, tant qu'il y aura des discriminations, il y aura des guerres. Donc son principal but est de lutter contre ces discriminations. On retrouve énormément de prises de position dans ses textes, contre le racisme.
Sans pas de moins, sans moins de résistance, et les résistances. Faudrait qu'on se touche des fois, la touche...
Il désespère en voyant le racisme prendre de l'ampleur dans les quartiers pauvres. Il dénonce aussi le racisme de la police.
Un petit arabe qui fait des bêtises, c'est un voyou pour la France. Un petit noir, c'est pareil, mais quand c'est un petit blanc, c'est juste un chenapan. Au milieu de la tourmente, les dos se tourneront.
Il aimerait aussi que personne ne soit jugé sur ses origines. Cette phrase résume très bien cette idée.
Je déteste le rap de blanc, j'aime le rap où tu mets rien après. Les pigeons me quittent un air...
Mais généralement, il aimerait que personne ne soit jugé sur ses traits physiques ou moraux. On peut par exemple citer la phrase où il défend la communauté LGBT.
Si t'es homophobe, c'est que tu juges forcément LGBT hier. Et j'étais bien embêté hier, je côtoie des top modèles.
Il soutient aussi énormément les femmes dans leurs différentes luttes. On peut citer ici une phrase dans Le bruit qui court.
Chez tous les gens intelligents, ça rit jaune de voir les dirigeants s'ériger en défenseurs de la morale. Alors que dirigeante, pour nos sœurs, c'est un mot rare. Mon reflet dans ce miroir, rempli par l'orage, me rappelle qu'on sera tout seul quand on mourra. Même ces patrons qui te licencient quand t'as des enfants pour leur avarice, ou te disent qu'il faut céder à leurs avances pour en avoir une. Contester le pouvoir, on vous ruine, ils sont peinards quand d'autres meurent. Peu de justice pénale, y'a qu'au tribunal.
Ici, il dénonce évidemment l'hypocrisie des dirigeants face à la situation des femmes dans des postes à responsabilité. Il dénonce également l'irrespect des patrons vis-à-vis des droits salariaux des femmes. Mais si Nekfeu défend de nombreuses discriminations, que fait-il réellement? Je vais ici prendre l'exemple de son discours aux Victoires de la musique en 2016. Il a profité de ces quelques secondes de parole pour parler de Moussa, un humaniste qui était détenu au Bangladesh, et aussi de l'association SOS Méditerranée, qui sauve des milliers d'immigrants chaque année. Cet exemple montre qu'en plus de ses prises de position, il utilise sa notoriété pour œuvrer à des causes qui lui sont chères. On pourrait aussi se demander quelle est sa réelle influence. Oui, ce n'est qu'un chanteur, mais il dit ce qu'il pense. On ne peut pas lui enlever ça. La parole d'un rappeur comme Nekfeu vaut autant, si ce n'est plus, que la parole d'un homme politique.
Effectivement, on oublie trop souvent l'importance de la musique, que ce soit dans notre vie quotidienne ou même en politique. Merci Hugo, c'était génial.
Après la musique, parlons maintenant de cinéma et d'une série Unbelievable présentée par Zoé. Bonjour Zoé.
Bonjour, j'ai décidé de vous parler d'une mini-série qui m'a marquée. Il s'agit de la série Unbelievable. C'est une série américaine. Elle est diffusée sur Netflix et elle est basée sur des faits réels. Cette série raconte l'histoire de deux inspectrices. Elles enquêtent sur un viol en série. Ce viol sévit dans plusieurs états des États-Unis. Marie est le troisième personnage principal de la série et elle a été violée. Suite à cela, elle a décidé de porter plainte. Pendant son interrogatoire, les policiers la forcent à modifier son témoignage. Elle finit par renoncer à sa plainte. Les deux policiers, dès le départ, ont cherché à la déstabiliser et n'ont pas voulu entendre la vérité. Ils n'apportent aucune aide à Marie, alors que c'est la victime. Le procureur va même jusqu'à la poursuivre pour fausse déclaration. Mais Marie n'est pas la seule victime dans cette situation. Cette série représente la vie réelle aux États-Unis et en France. Ce qu'elle a vécu, de nombreuses femmes l'ont déjà subi aussi. En 2018, 60% des Françaises qui ont voulu porter plainte pour viol déclarent que la police a réussi à les décourager de porter plainte. Elles estiment que les policiers n'ont pas voulu les entendre. Ce fait est grave. Les conséquences pour les victimes sont irréversibles. On peut le constater avec l'exemple de Marie dans la série. Elle a été licenciée car la plainte du procureur contre elle a été rendue publique. Je vous conseille donc de regarder cette série. Elle transmet un message fort, la réalité, une réalité que beaucoup de gens ne veulent pas voir.
Et dans cette radio, nous prêchons la réalité et la vérité. Une série donc à regarder pour vous, les auditeurs.
On se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale. Mesdames et messieurs, on écoute Indochine. On est de retour sur la radio Centre-Val de Loire, une radio 100% lessène, et on retourne dans le domaine du cinéma et on écoute cette fois Robin qui va nous faire découvrir la série The Boys, des justiciers hors la loi.
Aujourd'hui, les super-héros des films et des séries sont tous des justiciers anonymes au grand cœur. Ils sont prêts à sacrifier leur vie, ils portent un masque pour protéger ceux qui leur sont chers, et ils sont pleins d'humilité. Cliché. Imaginons un monde où les super-héros sont exactement l'inverse. Un monde où ces justiciers sont des employés. Un monde où leur image, leur héroïsme et leur pouvoir ne sont que des produits marketing. Dans ce monde, ceux qu'on appelle les super sont aussi connus que des stars de cinéma. Ils ont autant d'influence que des politiciens, et surtout, ils sont de parfaits enfoirés. Bienvenue dans The Boys. Ici, les super travaillent tous pour la même entreprise, Vought. Les produits dérivés, les films et les événements liés aux super en ont fait l'entreprise la plus puissante du monde. Derrière les muscles et le sourire des héros, The Boys nous montre l'envers du décor. Alcool, drogue et meurtre. Voilà le quotidien des idoles de l'Amérique. Mais les médias étouffent les scandales sous l'influence de Vought. L'entreprise entretient soigneusement leur image et surveille de près la cote de popularité de leurs super. Au sommet de la pyramide se trouvent ceux qu'on appelle les 7. Ce sont les 7 super-héros les plus puissants de l'Amérique, mais aussi les pires. Les missions des héros provoquent sans cesse de nouvelles victimes innocentes, mais les super, eux, sont intouchables. The Boys raconte la lutte de 4 hommes ordinaires contre la toute-puissance de Vought. Leur but est de montrer au monde le vrai visage de ces soi-disant sauveurs.
Entre échecs, succès, amitié, danger, violence et amour, The Boys nous montre un monde torturé. Avec des scènes émouvantes, presque malsaines de réalisme parfois, la série allie un casting surprenant et riche à un scénario, selon moi, parfait. Du réalisme, de la douleur, de la joie et de l'angoisse, voilà ce que nous offre The Boys.
The Boys, une série de 2 saisons de 8 épisodes, chacune à retrouver sur Amazon Prime Video, donc n'hésitez pas à aller checker ça entre 2 révisions. Puisque à force de parler de série, on va tous finir en échec scolaire, mais c'est pas grave. Merci Robin. Et on passe désormais à une chronique historique et on écoute Claire et Carla nous parler de l'histoire de Louise de Bettigny, une héroïne inconnue. Bonjour Clara.
Bonjour.
Bonjour. Effectivement, c'est une héroïne tombée dans l'oubli.
Mais alors, qui est Louise de Bettigny, Claire ?
C'est une espionne, une résistante, une femme qui s'est battue pour les autres.
La question que tous nos auditeurs se posent, mais qu'a fait cette femme d'aussi extraordinaire ?
Le mot « extraordinaire » n'est pas suffisant. Nous parlons là d'une femme qui, durant la Première Guerre mondiale, dirige à elle seule 100 personnes. Elle vit à Lille, où elle centralise des informations sur les opérations allemandes.
Rappelons-nous quand même qu'à ce moment-là, l'armée allemande occupe le nord de la France, et l'Angleterre a besoin d'informations.
Quelle femme incroyable ! Raconte-nous une anecdote à son sujet.
Vous n'allez jamais me croire si je vous le dis que la France a pu éviter la bataille de Verdun.
Mais comment ça ?
En 1915, elle passe ses journées à tricoter et à vue sur des trains. Pendant qu'ils passaient et en même temps de tricoter, elle mémorise les passages des trains et leur contenu. Pour faire passer les informations, elle tape du pied sur le plancher en morse. Ses enfants camarades en dessous informent les autres. C'est comme ça que fonctionne le réseau de renseignements espions. Grâce à cette technique, elle a annoncé une grande attaque allemande début 1916 à Verdun. Le réseau fonctionne aussi par l'interception des lettres envoyées par les soldats allemands et elle les récupère et passe les informations en les transmettant. Elles ont même été au courant de l'attaque de la bataille de Verdun.
Mais alors comment ça se fait que l'attaque a quand même eu lieu ?
L'information est relayée jusqu'au général Pétain, mais il refuse d'y croire.
C'est dingue ce que tu me racontes. J'imagine qu'elle a dû sauver beaucoup de personnes.
Oui, des milliers de soldats sauvés.
C'est une femme brillante et polyglotte, si je comprends bien. Je suppose qu'elle est morte aujourd'hui.
En effet, elle est arrêtée et condamnée à mort par les Allemands. Elle meurt malheureusement en 1918 en prison d'une maladie des poumons.
C'est fou qu'on ne la connaisse pas.
Eh bien, merci Claire et Clara d'avoir évoqué sa mémoire et son passé. Passons maintenant à un sujet dont bon nombre de jeunes débattent, le genre. Ce sujet sera discuté entre Daphné, Anaïs, Théophile et Angèle dans Balance ta pression. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Bienvenue dans Balance ta pression. Aujourd'hui, les hommes et les femmes subissent des pressions sociales. En fonction du genre, la société a des attentes particulières qui peuvent créer un véritable mal-être chez certains ou certaines. Qu'en pensez-vous ?
Nous sommes tous d'accord pour dire que la pression la plus présente est celle de l'apparence. Dans les médias qui nous entourent, comme les séries, les magazines, les réseaux sociaux, les femmes sont majoritairement représentées minces, avec des formes, mais sans trop de rondeur. Elles doivent aussi être féminines, coquettes et doivent prendre soin d'elles. Si elles ne répondent pas à ces attentes, elles sont tout de suite moins considérées.
Et qu'en est-il pour les hommes, Anaïs ?
Alors pour les hommes, on attend d'eux d'être forts, grands et musclés pour jouer leur prétendu rôle de protecteur. Mais cette force attendue n'est pas que physique, elle est aussi intérieure.
C'est en effet une autre question. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole à ce sujet ?
En effet, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Personnellement, je sais que plus jeune, jusqu'en 6e, 5e, je pleurais assez souvent et c'était assez mal vu par les autres. Aujourd'hui, je pense que si je devais pleurer, j'aurais plutôt tendance à m'isoler. C'est sûrement lié au fait qu'un homme ne doit pas montrer ses sentiments dans nos sociétés. Il ne doit pas pleurer, il doit être fort, viril, tout du moins en apparence. Au contraire, la société voit majoritairement les femmes comme des personnes plutôt à l'écoute des autres, douces, patientes et tolérantes. Il est moins rare de voir des femmes démonstratives de leurs sentiments. Ça peut être la joie comme la tristesse. Rapport aux hommes.
Effectivement, et ces comportements ont ensuite des conséquences dans l'organisation de la famille. Le comportement et le rôle des femmes et des hommes, y sont-ils différents, Angèle ?
Eh bien absolument, Daphné. Il faut d'abord rappeler que les femmes et les hommes n'ont pas besoin d'avoir un enfant pour construire une famille. mais beaucoup, et principalement les femmes, entendent au cours de leur vie qu'avoir un enfant devrait être comme l'aboutissement de leur vie. Certaines femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, et d'autres ne veulent simplement pas. Et lorsqu'un homme et une femme ont une famille avec des enfants, le père est considéré comme le chef de la famille, et les mères, notamment à travers certaines émissions de télé, sont incitées à prendre le rôle majeur par rapport à l'intendance et à la gestion de la maison, et aussi pour s'occuper des enfants, comme si c'était leur place dans la famille, alors qu'on ne voit aucune incitation de ce genre pour les hommes.
Merci pour votre intervention. Et les hommes et les femmes subissent-ils des pressions dans leurs rapports intimes ?
En effet, Daphné, on pense souvent qu'un homme parle beaucoup de sa vie intime. Dans les esprits, un homme doit avoir fait sa première fois assez tôt, comme une forme de course. A l'inverse, une femme devrait être plus pudique par rapport à sa sexualité et prendre plus son temps. Mais dans les faits, l'âge moyen de la première fois pour les hommes est à 17 ans et pour les femmes à 17 ans et demi. On voit donc que la différence est quasiment inexistante, donc c'est une idée qu'on se fait mais qui ne se vérifie pas vraiment dans les chiffres.
Oui, effectivement. C'est bien de rappeler que certaines de ces pressions viennent tout simplement des idées qu'on se fait, qui ne sont pas forcément vraies dans la réalité. Et il existe aussi des pressions au niveau du sport, n'est-ce pas Théophile ?
Oui Daphné, il existe des pressions sur cet aspect-là. Dans l'ensemble, les femmes sont plus poussées vers les disciplines artistiques, on peut penser à la gymnastique ou encore à la danse, qui mettraient en avant leur prétendue élégance et leur grâce. On retrouve en effet, pour corroborer cela, 78% de femmes parmi les personnes licenciées en gymnastique et 93% dans les clubs de danse. Aussi, dans l'ensemble, les femmes sont moins poussées vers le sport. Elles ne s'accordent pas forcément le temps d'en faire, et le sport féminin est beaucoup moins médiatisé que les pratiques masculines.
Et à l'inverse, les hommes, eux, pratiquent plus souvent des sports collectifs ou des sports de combat. Peu d'hommes pratiquent des sports ou des activités artistiques. Et c'est évidemment lié à ce qu'on attend d'un homme du XXIe siècle, à savoir, comme on l'a dit précédemment, fort, viril, protecteur, etc.
Eh bien, merci pour toutes vos interventions. Espérant qu'avec le temps, et grâce aux efforts de notre jeunesse, nous n'ayons plus besoin de parler de ces sujets. Bonne journée.
Eh bien, merci pour cette discussion éclairante et intéressante.
Tout de suite, une petite pause musicale, une fois de plus, et on écoute de nouveau une chanson d'Indochine et de la chanteuse Chris, plus connue sous le nom de Christine and the Queen.
Qui pourrait dire non? On se prend la main et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Et on se prend la main et on se prend la main. Un garçon. Dans des cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles? Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île? J'ai pas envie. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main, un garçon féminin, une fille au masculin. Et
les filles sans contrefaçon, maquillées comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter.
On est de retour au lycée Peggy sur la radio 100% les scènes du Centre Val-de-Loire. On passe tout de suite à une chronique sur les non-binaires de Théodora. Théodora, ça va ?
Ça va, merci. Et toi ?
Ça va, on t'écoute.
En effet, donc les non-binaires, un nouveau genre. Aujourd'hui, 18% des 14-44 ans se disent non-binaires, soit environ 3 millions de personnes en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire non-binaire ? Qu'est-ce qu'une personne non-binaire ? C'est une personne dont l'identité de genre n'est pas définie, c'est-à-dire que la personne ne se ressent ni homme ni femme. Cette personne peut se situer entre les deux, un mélange des deux ou même aucun des deux. Il faut bien comprendre que l'identité de genre n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. En effet, l'identité sexuelle, c'est le genre que l'on choisit pour se définir. Quant à l'orientation sexuelle, ce n'est pas pareil, c'est l'attirance qu'on ressent pour une personne de sexe opposé ou de même sexe. La loi française ne reconnaît pas l'existence d'un genre neutre. Pour la Cour de cassation, les sexes masculins et féminins sont nécessaires à l'organisation sociale et juridique. Et un genre neutre impliquerait de nombreuses modifications législatives. Ce n'est donc pas possible d'être reconnu non-binaire sur les papiers officiels. Pour changer de prénom, il faut faire une demande à la mairie. Il faut qu'elle soit justifiée surtout pour l'utilisation d'un prénom neutre, par exemple avec la lettre d'un proche ou des courriers reçus à ce nom. Aujourd'hui, les non-binaires sont de plus en plus présents et s'assument plus. Ils n'hésitent pas à se montrer, en tout cas pour certains. Par exemple, Fabian est un influenceur suivi par 4 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il y poste ses nombreux maquillages, il se maquille depuis petit et est très doué. Il est même l'effigie de marques connues. Il est aussi reconnu pour s'assumer comme il est, ni homme ni femme. Il affirme que c'est la société qui a mis des codes et qu'il n'a pas à les respecter. Il est admiré par un certain nombre de jeunes qui se cherchent encore et s'identifient à lui car ils aimeraient s'assumer autant que lui. On peut dire qu'il fait de sa différence une force. La non-binarité n'est pas considérée de la même manière à l'étranger. Plusieurs pays sont beaucoup plus avancés et reconnaissent la non-binarité. Par exemple, les sites internet comme Facebook, Google reconnaissent d'autres genres et proposent des emojis neutres. Des pays comme le Canada, l'Australie, le Pakistan ou les Pays-Bas donnent la possibilité d'obtenir un passeport avec la mention « sexe neutre ». Certaines compagnies aériennes américaines permettent les mentions non précisées ou confidentielles à la place de « monsieur » ou « madame ». Une option non-binaire est aussi disponible sur les formulaires d'inscription dans certaines écoles américaines. La langue anglaise s'adapte facilement au genre des non-binaires puisque le pronom « they » et les adjectifs ne sont pas genrés. Dans le domaine du droit, certains pays reconnaissent un troisième sexe depuis peu. Le Népal en 2011, l'Inde et l'Australie en 2014, le Pakistan et l'Allemagne en 2018 et aussi le Danemark. Ainsi que certains États américains, l'Afrique du Sud ou encore d'autres. Comme quoi, la France a encore un train de retard, voire plusieurs.
Effectivement, il semblerait que certaines mentalités aient encore besoin d'évoluer un peu. Merci Théodora, c'était passionnant.
Et maintenant, passons à un jeu, un quiz sur des lois absurdes, imaginaires ou réelles, avec comme titre « Duralex, Lex, Sedlex ».
Bonjour à tous, alors maintenant un peu de légèreté.
Comme le dit un dicton célèbre, nul n'est censé ignorer la loi. Mais la connaissez-vous vraiment ? On vous a préparé un quiz pour vous tester. Les règles sont simples. Une affirmation, vous nous dites si elle est vraie ou fausse. Vous pouvez bien sûr jouer aussi de votre côté. Et maintenant, accueillons notre participante du jour, Inès.
Bonjour.
Bonjour Inès.
Alors Inès, première question. Depuis les manifestations de 1968, les pavés dans les rues de Paris sont considérés comme des armes mortelles potentielles. Vrai ou faux ?
Je dirais faux.
Faux. Par contre, c'est le cas des poubelles et des cendriers. Ils peuvent servir à menacer de tuer ou de blesser.
Deuxième question. Près de Strasbourg, un village offre le gîte et le couvert aux reines du Père Noël le soir de la distribution des cadeaux. Vrai ou faux ?
Je pense que faux aussi.
Faux, c'est en fait un arrêté municipal de la ville de Saint-James-sur-Loire, près d'Angers.
Troisième question. Dans la ville de York, au Royaume-Uni, il existe une loi datant du Moyen-Âge qui est toujours en vigueur. Cette loi autorise à tuer un Écossais dans l'enceinte de la ville s'il porte un arc et des flèches. Vrai ou faux ?
Ça me semble vraiment faux aussi.
Eh bien, c'est vrai, cette loi n'a jamais été supprimée. Par contre, des lois contre l'homicide ont été depuis mises en place. Mais il n'est pas totalement impossible que quelqu'un tente d'éviter la case prison grâce à cette loi, même si ça me paraît assez compliqué.
Quatrième question. Depuis 2016, les moustiques sont bannis de la commune de Briolet, en Maine-et-Loire. Vrai ou faux ?
Celle-ci aussi, je pense que c'est faux.
Vrai, c'est une mesure symbolique. Grâce à elle, les pouvoirs publics sont alertés de la forte population de moustiques et elle pousse également les habitants à vider leurs points d'eau stagnantes.
Question 5. Les ovnis ne sont pas autorisés à atterrir dans la commune de Châteauneuf-du-Pape. Vrai ou faux ?
On va tenter vrai.
Vrai. Oh. Le maire prend cet arrêté en 1954 pour rassurer sa population, car les habitants étaient persuadés de voir souvent des soucoupes volantes passer au-dessus de leur maison.
Sixième question. Il est obligatoire de rédiger des chèques à partir du carnet fourni par la banque.
Vrai.
Faux, sauf si la banque l'interdit. Il est possible de rédiger un chèque soi-même sur tous les matériaux assez résistants, y compris le papier toilette.
Septième et dernière question. Selon une vieille loi française, il est interdit de s'embrasser sur les quais de la gare.
Je dirais faux.
C'est vrai, la SNCF a lancé cette interdiction pour éviter les retards. À l'époque, les amoureux prennent trop de temps à monter dans le train, en partie à cause des baisers d'au revoir passionnés.
En conclusion, une cinquantaine de lois vont être abrogées, c'est-à-dire supprimées, par le Bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles. Curieusement, son acronyme forme le mot « balai ». Les critères de suppression sont simples. Ces lois doivent être obsolètes, inconventionnelles ou en contradiction avec d'autres lois. C'est la fin de ce quiz. Merci Inès d'avoir participé et à vous de nous avoir écoutés. Jade et Léo, c'est à vous.
Je suis sûr que nos auditeurs avaient toutes les bonnes réponses.
Tout de suite, un débat humoristique, bien sûr, et orchestré par les élèves Marie, Ilias et Simon, qui vont nous interpréter un journaliste, un ministre et un intervenant lambda. On rappelle bien évidemment que ce débat est une satire. On ne veut pas de procès de la part du ministre. À vous.
Bonjour, nous accueillons aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous présenter votre loi concernant la tenue républicaine. Vous expliquez vos motivations dans votre livre « Le trop court, pas en cours ». Vous n'êtes pas sans savoir que votre loi est source de nombreuses controverses. C'est pourquoi nous invitons également Ilias, membre de l'association féministe, Nous Toutes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Nous allons dès à présent commencer le débat. Comme vous l'avez déjà évoqué, vous souhaitez réglementer les tenues féminines et même interdire le port de certains vêtements à l'école. Monsieur le ministre, première question, pourquoi ce projet de loi ?
Effectivement, j'ai décidé de proposer ce projet de loi pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, j'ai voulu assurer le respect de l'ordre républicain dans les classes. La fonction de l'école ne se limite pas à transmettre uniquement des savoirs, que diable ! C'est également s'approprier les valeurs de la France. De surcroît, une tenue vestimentaire convenable améliorera la productivité et l'attention des élèves. Alors...
Il y a des professeurs qui disent « ça déconcentre les garçons ». Bien sûr que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, des jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre.
Vous pensez sûrement comme M. Finkielkraut. Quand vous dites « élèves », vous parlez des garçons. Vous craignez que les garçons soient déconcentrés. Vous aussi, à votre âge, ça vous déconcentre, monsieur le ministre ?
Merci, Ilias. Merci, monsieur le ministre. Cela nous mène à la question suivante. Cette loi contient donc des interdictions, comme les crop tops, les shorts, les jupes. Vous empêchez ainsi les écolières de s'habiller comme bon leur semble. Ne pensez-vous pas que cette loi est liberticide ?
Vous exagérez. Certaines tenues resteront autorisées. Il est entendu que nous laisserons entrer les jeunes filles vêtues de jupes ou encore de robes.
Mais concrètement, il y aura quand même des restrictions sur les tailles des vêtements.
Oui, tout à fait. Je vois d'ailleurs que vous commencez à saisir. Je vous en félicite.
Vous comptez donc mesurer précisément les tailles des vêtements. Mais comment allez-vous déterminer ce qui est long ou ce qui est court ?
Oh, sur ce point, le protocole est très précis. Les jupes trop courtes sont interdites. C'est-à-dire que les jupes qui font moins de la taille de la jambe divisée par 2,68 auquel on soustrait la racine carrée de la taille de votre bras, tout cela en centimètres, sont interdites.
Oh là.
On ne saurait faire plus clair. J'ajouterais même que cette mesure engendrera la création de très exactement 4356 emplois. Laissez-moi rajouter à toutes ces excellentes raisons un argument de taille.
Oh là
sans
là.
Mauvais jeu de mots.
Oh là là.
De taille. Enfin bref, une étude a montré que la moyenne générale des garçons se verra augmenter de 1,04 points.
D'une pierre deux coups, monsieur le ministre. Le trop court est interdit, mais qu'en est-il du trop long ?
C'est vrai, mais enfin... Vous imaginez bien que nous ne saurions autoriser une jeune fille voilée à entrer dans l'enceinte d'un lycée. Mais enfin, sur cette question, vous prenez quelque peu de cours. Bon, bref, vous conviendrez que, tout de même, nous avons tous une idée claire et intuitive de ce qu'est une tenue républicaine.
Bah non, expliquez-moi qu'est-ce qu'une tenue républicaine pour vous. Dites-moi pourquoi le crop top n'est pas républicain. Les nombrils sont-ils les ennemis de la République, monsieur le ministre ?
Enfin, je ne vais pas vous réapprendre l'histoire de France. Vous savez tous que Louis XIV portait des crop tops pour son plaisir personnel. C'en est devenu un symbole de la monarchie. Ne me faites pas croire que tout jeune que vous êtes pour la monarchie.
Oh mais vous êtes con, mais c'est qui ce guignol au gouvernement ? Non mais je rêve, Louis XIV et les crop tops. Vous êtes incapable de créer des histoires pour justifier votre boomerisme en fait.
Messieurs du calme, restons sérieux. Le débat s'arrête ici. Merci à vous deux pour vos interventions plus ou moins pertinentes. Je vous rappelle que le livre « Le trop court, pas en cours » écrit par monsieur le ministre ici présent sera disponible à la vente dès demain. Je vous invite à ne pas l'acheter.
À part pour caler un meuble, évidemment. Si.
Ok, merci monsieur le ministre. On va peut-être calmer un petit peu le débat. C'était très drôle. Merci à vous trois.
So
À venir, un débat organisé par pair autour d'un sujet houleux, le port de signes religieux dans l'espace public. Depuis 15-20 ans, un nouveau débat a fait surface. Le port de signes religieux dans l'espace suscite polémique. Ce terme très général recouvre plusieurs réalités assez différentes. Un signe religieux peut être distingué en trois situations comme manifestation d'une conviction religieuse, comme instrument de visibilité d'une religion et comme la manifestation d'une obligation religieuse. L'espace public désigne l'ensemble des espaces destinés à l'usage de tous, sans restriction. Il peut ainsi s'agir de tout espace de circulation ou de rassemblement, parcs, places, les espaces commerciaux, etc. L'espace public est à distinguer du domaine public, qui représente les terrains appartenant de droit à une autorité publique sans être nécessairement accessible au public. Nous recevons Zoé, Artemis, Eric et Capucine pour ce débat. Bonjour à tous.
Bonjour, je voudrais commencer par dire que la France est un pays libre et le fait de porter des signes religieux dans l'espace public, c'est une forme d'expression de cette liberté, ici religieuse, et je pense que c'est difficilement contestable. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Certes, la liberté, me direz-vous, elle est dans notre devise. Elle est très importante, elle est gravée sur toutes nos mairies. Mais à côté, qu'est-ce qui apparaît ? L'égalité. L'égalité entre citoyens. Comment pouvons-nous mettre sur un même piédestal tous nos citoyens, si ceux-ci ne se ressemblent pas ? Se démarquent et ont une volonté de se distinguer. Les ports de signes religieux doivent être interdits, car ils empiètent sur l'égalité de tous nos concitoyens vis-à-vis de la nation qu'ils forment.
Si je vous comprends bien, vous nous reprochez de faire passer la liberté avant l'égalité. Mais vous faites exactement la même chose en faisant passer l'égalité avant la liberté. Au fond, ce qui vous dérange dans le port des signes religieux, c'est ça. Vous sortez dans la rue, vous voyez des individus se balader avec un collier en forme de croix, avec un foulard autour de la tête. Vous voyez au-delà du vêtement. Pour vous, le problème dans cette pratique, c'est la charge symbolique qu'il y a derrière, alors que vous ne devriez même pas y porter quelconque attention, puisque c'est un choix purement personnel que de porter des vêtements relatifs à une croyance.
Non, ce qui prime dans notre pays va au-delà des valeurs de liberté ou même d'égalité. C'est la laïcité, valeur de la République française. Dans l'espace public, quand des personnes portent ostensiblement des signes religieux, et qu'ils sont soumis à la vue de tous, les plus jeunes, qui par exemple apprennent cette valeur fondamentale et la découvrent, peuvent être perdus et penser que ces principes fondamentaux sont bafoués. Tout ça c'est bien, mais 78% des Français pensent aujourd'hui que la laïcité est menacée. Que pouvez-vous leur répondre ?
Permettez-moi de vous interrompre. Pour rebondir sur ce que vient de dire Eric, la loi française est claire à ce sujet. Pour rappel juridique, la loi de 1905 affirme la liberté de conscience, le libre exercice des cultes. Le port de signes religieux dans l'espace public n'a pas été remis en cause, mais la loi du 11 octobre 2010 dispose néanmoins que nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Cette loi a été votée à un moment où le débat autour du voile intégral avait lieu dans la société. Zoé, je vous redonne la parole.
Merci. Je vous réponds donc, et je pense qu'à l'inverse, vous n'avez rien compris à la notion de laïcité. Elle autorise justement la libre pratique de tout culte religieux et qui autorise tous les individus à le faire en toute liberté de conscience.
Dans votre définition, vous obligez toute la population à se soumettre à une égalité des plus drastiques en négligeant les principes constitutionnels de liberté et de laïcité.
Mais nous ne souhaitons pas brimer les gens. Nous leur souhaitons simplement de ne pas être discriminés en subissant des outrages, des attaques ou des insultes. Comme le dit la DDHC, qui, je vous le rappelle, structure notre société, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et pour cela, nous devons les mettre au même niveau et interdire le port des signes religieux au sein de l'espace public.
Vous soulignez donc là un problème de mœurs, pas un problème dû aux structures de la société, donc de normes et de lois. Ce n'est pas en interdisant le port de signes religieux et en les cachant de la vue de tous que vous allez éliminer, comme par miracle, les discriminations à caractère religieux, car il y en aura toujours. En revanche, en autorisant le port libre de ces signes, les esprits pourront évoluer vers une plus grande acceptation et tolérance, et enfin mettre un terme aux agressions pouvant y être liées, puisque les signes religieux seront enfin normalisés. On ne peut pas mettre la faute sur les oppressés plutôt que sur les oppresseurs. Vous voulez que tout le monde se ressemble. Mais d'autres groupes se distinguent avec d'autres signes, comme les individus se revendiquant gothiques ou punk. Donc, pourquoi viser les religions ?
Certes, mais ces individus adoptent ce style par choix. Et nous ciblons les religions, car selon moi, elles constituent une forme d'oppression. Si on les exhibe au travers de signes religieux au sein de l'espace public, le port de tels signes sont susceptibles, encore une fois, d'oppresser autrui. De plus, les religions ne sont pas toujours pratiquées par choix, contrairement aux gothiques ou aux punks. Prenons l'exemple des femmes musulmanes, entre autres. Elles sont soumises par leur mari, leur père ou qui sais-je pour porter le voile. L'ont-elles choisi ? Ce n'est pas l'image de femme soumise que veut renvoyer notre pays.
Vous avez, je pense, une méconnaissance profonde de la religion. Les femmes sont depuis bien longtemps émancipées, les femmes musulmanes y compris. Le voile n'est pas un acte de soumission, c'est un choix spirituel et personnel. Allez donc interroger ces femmes et apportez-moi leurs réponses, parce que je ne vous crois pas. Vous devriez vous intéresser davantage avant de dire cela.
Nous n'avons pas besoin de connaître cette religion, ou quelconque autre croyance d'ailleurs. La France est désormais un pays laïque, et s'est battue pour le devenir depuis 1905. La France appartient en plus aux Français, et beaucoup de nos concitoyens affirment ne plus se sentir en sécurité. Ils ne se sentent plus chez eux. Que pouvez-vous leur dire ?
Vous vous méprenez. La France n'appartient à personne. Laïcité ne signifie pas neutralité religieuse, elle signifie tolérance. De plus, tous ces gens à qui vous voulez interdire de porter les signes religieux qui leur sont chers sont français.
Très bien, ce débat pourrait encore durer longtemps, mais le temps nous manque. Merci à Zoé, Artemis, Eric et à Capucine.
Encore merci pour ce débat à tous les quatre. Nous allons passer à autre chose. Nous tenons à rappeler bien évidemment que c'est un débat qui a été scénarisé. Ça ne reflète en aucun cas votre avis personnel.
Merci.
Merci.
Merci à vous. Et nous allons conclure cette émission. Je remercie tous les intervenants, l'équipe technique, Léo.
Merci à toi, Jade, de m'avoir secondé à cette super émission radio. Un grand merci et salut.
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant Sganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock. Et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé. Ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas.
je t'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit aux lampes à roues. Et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fascinés au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Connais-tu en quadriphonie le dernier tube de Mahler et les planteurs de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver? On en a des choses à voir jusqu'à la Louisiane en fête, où il y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas.